enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Je voudrais pendant quelques minutes parler d'un thème qui va, je sais pas, qui va vous étonner, ou vous allez peut-être être convaincu que c'est aucun problème, mais je voudrais parler de l'humilité. L'humilité, tout le monde pense l'avoir, mais quand vous regardez un petit peu, ça ne court pas les rues. Dans l'évangile de Matthieu, vous savez, hein, le cœur humain il est toujours le même, depuis la chute, ça a toujours été le problème. Je vous rappelle que la cause de la chute vient de ce que, justement, Adam et Ève, eh bien, ont perdu cela, ou plutôt ont dépassé cela, puisque Dieu leur avait dit, le malin est venu, leur a dit, mais Dieu a-t-il réellement dit ? Ils commençaient à discuter, puis Dieu sait que le jour où vous serez comme des dieux, vous voyez, le truc pour avancer, et puis l'arbre était bon à manger, convoitise la chair, orgueil de la vie, agréable, utile pour couvrir l'intelligence, donc, comme dira plus tard l'apôtre Jean, convoitise des yeux, orgueil de la vie, etc., etc. Donc, si vous voulez, c'est la perte de l'humilité qui a fait chuter Adam et Ève. Mais n'oubliez pas que cette perte de l'humilité qui a fait chuter Satan, puisqu'il était le chérubin protecteur. Et je voudrais vous dire, c'est la perte de l'humilité qui vous fera chuter, qui me fera chuter, si nous la perdons. Donc, c'est l'humilité qui précède la gloire. Vous le savez, ces passages, nous les connaissons, mais l'orgueil précède la ruine. Et je voudrais encore dire quelque chose. La parole de Dieu, vous ne pouvez pas l'admettre. Vous pouvez pleurer, vous lamenter, jouer l'enfant gâté, mais la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Et quand Dieu dit quelque chose, il va le faire. Et ça, il est extrêmement important pour nous, chrétiens, de comprendre que lorsque Dieu dit quelque chose, ça va se faire. Nous pensons que Dieu dit, regardez un peu l'éducation des parents, oui, tiens-toi bien à table, je te dis de te tenir bien à table, tu vas te tenir bien à table, écoute, hein, si tu ne te tiens pas à table correctement, tu vas prendre la fessée. Bon, t'as compris, ça fait 4 fois que je te le dis, je vais le dire à ton père. Ça, c'est pas de l'autorité, c'est du vent. Et ça ne porte rien, et c'est pour ça que nous avons une jeunesse dans cet état-là. Faut le comprendre, les gens ont perdu cette notion de l'autorité de la parole. Vous savez, dans le civil, dans mon passé, j'étais surveillant général. Lycée Mounier, là, 2000 élèves, lycée mixte à Voiron, Rio, 700 internes, 2000 élèves. Vous savez, j'ai appris ce que c'était l'autorité. Au démarrage, quand je me suis converti, je dis, ça y est, maintenant, je vais être bon, plein d'amour, je vais persuader les élèves, je vais leur montrer qu'ils ont tout à gagner en étant obéissants, soumis au règlement. Alors, je persuadais, je comptais, je priais pour qu'ils deviennent obéissants. Ça a été la débâcle. J'ai cru que j'allais perdre ma place parce que j'avais pas compris, amour, tu te frappes une joue, on tape sur une joue, tu tends l'autre. J'avais pas compris la notion de l'autorité. Je pensais que l'amour couvrait tout, il fallait tout accepter. Jusqu'au jour où j'ai compris qu'il fallait arrêter le cirque. Et j'ai dit, maintenant, je ne le dirai pas 2 fois. 1 fois est terminé. Samedi, tu ne rentreras pas à la maison. En 24 heures, tout le lycée a été changé. L'autorité de la parole. Quelque chose qu'on a perdu, regardez, on essaye de persuader les gens, on essaye de faire comprendre les gens, et les gens maintenant ne supportent plus l'autorité, la preuve. Regardez, parce que quand on donne ça, les gens prennent ça. C'est dans la nature des choses. Hein. Satan, il avait Lucifer, prince de la lumière, avait tout, chérubin de lumière, il avait tout, il a voulu plus. Les lois, je rappelle les lois, ou la loi, ou le pédagogue, comme on dit dans la Bible, ne sont pas faites, ne nous changent pas. L'autorité ne vous change pas. Être obligé de vous soumettre à une autorité ne vous change pas. Être obligé de vous soumettre à des règlements ne vous change pas. Elle contient la loi dans le monde, comme la loi contient le péché qui est en nous, contient la désobéissance, contient les mauvaises actions des hommes. Mais c'est l'acceptation de l'autorité qui commence à vous transformer. C'est l'acceptation de la pensée de Dieu qui vous transforme. Mais la loi en elle-même, c'est plutôt une protection face au mal, mais une loi ne vous change pas. À moins que par l'obéissance à la loi, vous grandissez donc dans ce changement de caractère. Alors, revenons à notre bébé. L'humilité, c'est vraiment quelque chose. L'humilité, à mon avis, c'est la clé de la réussite. Vous savez, beaucoup proclament leur bonté, dit le livre des Proverbes. Hein. On a une génération, c'est aussi le produit d'une société, on a une génération arrogante. Regardez, prenez le tram, regardez les conducteurs de voitures sur la route, regardez les interviews, regardez les rassemblements, regardez, c'est... On a des droits. Une société de droits, bon, si les droits sont reconnus, mais c'est l'esprit de revendication et l'humilité, hein, je vais simplement partager avec vous ce matin quelques points. L'humilité, c'est l'absence de la revendication. L'apprentissage de l'humilité, c'est apprendre à ne plus revendiquer. Ça, c'est extrêmement important, parce qu'à ce moment-là, si vous ne revendiquez plus, vous êtes obligé, vous dites, vous devenez la dernière crêpe, le dernier tapis sur lequel on marche dessus, ou alors, vous apprenez au travers de votre humilité. C'est un choix, une prise de position, c'est pas facile. Vous apprenez là, c'est la clé pour faire confiance à Dieu qui vous élèvera au temps convenable. Celui qui s'abaisse sera élevé, celui qui s'élève sera abaissé. C'est incroyable, l'humilité a des conséquences, l'humilité nourrit notre foi, nous apprend à avoir une foi authentique. Le manque d'humilité nous empêche d'avoir une foi réelle en Dieu. Pas avoir une foi de présomption, une foi de moi-je, hein, une foi humaine, dans la capacité humaine, ça, l'absence, l'orgueil de la vie, etc. Notre génération est une génération matérialiste, orgueilleuse, on pense que tout va arriver, tout est faisable, on pourra régler tous les problèmes, etc. C'est l'orgueil de l'être humain, cette foi humaine. Mais la foi de Dieu, elle, la foi en Dieu et la foi de Dieu qui en découle, eh bien, ne vient, à mon avis, que par là. Bien sûr, le côté pratique, la révélation, la relation avec Dieu, mais la clé, c'est une disposition de cœur, l'humilité du cœur. C'est extrêmement important, parce que ça ne vient pas tout seul. Je voudrais ça aussi le dire, ça vient. Pourquoi est-ce qu'on voit tellement de gens qui sont hyper écorchés vifs? Vous savez, souvent on a l'impression que les chrétiens sont plus susceptibles que les païens. Les païens, ils s'en fichent, mais les chrétiens, on aimerait tellement être parfait, on aimerait tellement plaire à Dieu, on aimerait tellement réussir, on aimerait tellement être transformé, que sans s'en rendre compte, il faut qu'on apprenne à descendre. Parce que ce n'est pas nous qui pouvons nous transformer, c'est Dieu qui nous transforme. Au travers des circonstances de la vie, au travers de nos échecs, au travers, j'allais dire, de nos frustrations. Et tout à l'heure, je vais parler, on est prêt, on veut tout de suite, tout vite. C'est la société qui demande ça, c'est le café instantané, on veut tout vite. Il faut vous mettre dans la tête qu'avec Dieu, bien des choses, notre croissance, notre transformation, arriver à la place qui est la nôtre dans le corps du Christ, prend du temps. Quel est le succès des ministères de délivrance, machin de trucs, etc. C'est qu'ils vous promettent par une imposition des mains, par une prophétie, par une parole de connaissance, ils vous proposent de régler vos problèmes en 2 minutes. Pas vrai. Ça peut, l'onction d'un ministère peut vous aider momentanément. Ça reste pas. Pourquoi cela? C'est très simple. Parce que la vraie foi qui amène les vrais dons, qui amène la vraie capacité de puissance, c'est pas celle que vous forcez, que vous voulez piétiner en touchant l'onction des uns et des autres. C'est celle que vous vivez lorsque vous avez découvert, lorsque l'Esprit de Dieu, au travers des circonstances, de votre humilité, de votre persévérance, vous avez atteint votre position en Christ. Lorsque vous êtes à votre place, alors les dons coulent tout seuls. Nous mettons priorité dans les dons. On veut tel don, on veut tel truc, on veut tel machin. Alors que si vous êtes à votre place, l'accompagnement spirituel va se faire. Le grand problème, c'est d'être à notre place. Et ça prend du temps parfois. Il y a une sensibilité, il y a les luttes, il y a le façonnage de Dieu, il y a le travail de Dieu, il y a les échecs, parce que les échecs nous apprennent parfois plus que nos réussites. Il faut y passer. Vous savez, Pierre, hein? Pierre, l'apôtre Pierre, ben, Seigneur, si tous te lâchent, moi, je ne te lâche pas. Il était sincère. Mais je ne sais pas si vous réalisez. Nous, on a une notion du péché qui est adultère, vol, etc. En tant que chrétien, on a des points forts, on a des points faibles. Fort ici, il y a des gens qui n'ont peut-être jamais commis adultère, impureté, etc. Mais il le faut, hein, je sais pas. Mais alors l'amour de l'argent, personne n'en parle. L'orgueil, personne n'en parle. La susceptibilité, la rancune, l'amertume, personne n'en parle. On vous pointera du doigt pour telle ou telle chose, telle ou telle lutte intérieure. Vous avez certains qui ont des luttes sur ce terrain-là, vous avez d'autres qui ont des luttes sur un autre terrain. Celui qui n'a pas de lutte sur tel terrain, il devient juge pour celui qui a des luttes sur l'autre terrain. Mais l'humilité nous permet d'accepter, nous faire accepter de descendre au travers de toutes les circonstances que je rencontre dans ma vie. L'humilité est un choix avant d'être le fruit de l'esprit. Un choix, si je le veux, ça va me coûter. Si je ne le veux pas et si je le refuse, ça ne se fera pas tout seul. Revêtez-vous d'humilité. C'est pas Dieu qui dit « je vais vous revêtir d'humilité », il dit « revêtez-vous ». Ce n'est pas marrant, hein. Vous savez, l'humilité, c'est pas marrant. L'humiliation, c'est pas marrant. Mais si vous commencez à comprendre ça, vous allez commencer à accepter les luttes, les combats, les difficultés que vous allez avoir ou que vous avez dans votre vie. Parce que ces choses-là sont dans le calcul de Dieu pour vous transformer. Je dirais encore ceci, n'oubliez pas que, bon, on le dit, mais on voit dans la vie que les gens se rendent pas. Ce qui compte, à la fin de votre vie, c'est pas tout le travail que vous avez fait. Les œuvres doivent exprimer votre foi. C'est clair que les œuvres prouvent votre foi. Mais les œuvres ne remplacent pas votre foi profonde, qui est une relation avec Dieu, qui est le caractère de Christ, qui est fruit de l'Esprit, avant d'être peut-être les dons de l'Esprit, ça peut être les dons de foi, c'est la puissance. Le fruit de l'Esprit, le fruit de la foi, c'est le caractère qui est transformé. Mais n'oubliez jamais que les œuvres confirment, expriment votre authenticité de foi. En réalité, c'est Christ, la nature du Christ qui va croire au travers de vous. Mais n'oubliez jamais que quand vous passerez de l'autre côté, ce qui va compter dans votre place dans le ciel, ce qui va compter dans votre réussite ou dans votre échec, parce que l'autre jour, hein, comme je disais, il y a un serviteur de Dieu qui m'a dit « mais on sera bien obligé d'être tous ensemble dans le ciel ». Je dis « non, non, je suis convaincu que certains n'iront pas au ciel ». Il ne faut pas se faire d'illusions, il y a des gens, des chrétiens, de nom qui ne seront pas sauvés. Donc ce qui compte, c'est ce que tu es au moment où tu passes la porte de la mort pour ta place qui te sera donnée dans l'éternité, dans la Jérusalem céleste. Et n'oubliez pas que toute votre vie ici-bas, et c'est là le problème du matérialisme qui nous enveloppe si facilement, toute notre vie ici-bas a pour objectif et travail de Dieu et le nôtre pour nous préparer à cette place dans le ciel. Jésus a dit, je vous prépare une place. Il y a une prédestination dans la place, mais il faut que nous fassions notre part pour y arriver. Et ça, c'est extrêmement important. Pour beaucoup, il veut être heureux dans la vie, on veut ceci, on pense qu'on va avoir ça, puis on va avoir ça, pour être heureux et tranquille dans la vie. On n'a rien compris. Parce que vous pouvez être tranquille dans la vie et rater toute votre éternité. Ce qui compte, vos luttes, vos combats, vos joies, vos peines rentrent dans une articulation de la souveraineté de Dieu qui doit vous transformer en profondeur, en authenticité, non pas pour vous satisfaire, mais d'abord pour satisfaire le cœur de Dieu, le critère de Dieu. Et quand vous satisfaisez les critères de Dieu, vous êtes heureux vous-même. Parce que si vous sentez réaliser l'approbation de Dieu, vous êtes heureux, vous êtes entré dans le repos de Dieu. Mes amis, extrêmement important d'avoir une vision juste de votre marche sur la terre. Quand on voit les gens liés les uns par les autres, liés par les affections, liés par les priorités, liés par les raisonnements de la vie, alors que Jésus lui dit, attention, quelqu'un aime son père, sa mère, sa femme, ses enfants, non, l'amour du monde est inimité contre Dieu. Comment, je suis parfois étonné de voir comment les chrétiens peuvent-ils penser un jour être sauvés si dans leur vie, dans leur choix, ils ont désobéi à Dieu. Vous ne pouvez pas. On ne joue pas avec la parole de Dieu. C'est ça que je veux insister. On ne joue pas. On ne joue pas si Dieu dit, il dit. Et Dieu veille sur sa parole. Et ça, il y a besoin de le retrouver, ce qu'on pourrait appeler la crainte de Dieu. Parce que vous méprisez, vous négligez. Vous savez, je suis parfois étonné quand je vais dans le midi de la France. C'est incroyable, le midi de la France, les chrétiens. Ils sont relax, on s'arrangera toujours, etc. Mon frère, qui venait qui habitait dans l'Est, s'est retrouvé un peu gestionnaire d'une église dans le midi de la France. Il me dit, mais Pierre, tu t'arracherais les cheveux si tu voyais la façon dont ils font leur comptabilité. Puis quand vous regardez, quand vous roulez en voiture dans le midi, mais ils grillent les feux rouges, grillent les stops, grillent les... C'est le midi! Alors si vous allez plus encore dans le sud, mais avec Dieu, il n'y a pas le midi. Dieu, que ton oui soit oui, que ton non soit non. Et ça, on a désespérément besoin. Pourquoi, savez-vous, pourquoi vous avez parfois des... Parfois, on parle du pardon. Pardon. Tout le monde sait qu'il faut pardonner. Tout le monde le sait. Attention, le pardon, c'est pas dire amen à n'importe quoi. Il y a des personnes, je suis parfois effrayé de voir comment les gens touchent à des serviteurs de Dieu. Nous avons eu prédicateurs, quand on a participé à la campagne de Béni, Cyrulo m'a écrit, tu te rends compte, tu mets ton nom là-dedans, c'était le frère, patati patata. Sur Internet, vous avez des critiques, des trucs, des procès, on dévoile la vie privée vraie ou fausse. Des hommes de Dieu, avec une facilité, les gens ne se rendent pas compte qu'ils se fusillent en faisant ça. Quand c'est des chrétiens, ils se fusillent. Vous savez, quand Cham, à un moment donné, après le déluge, Noé s'est enivré, probablement. Il a le vin, nouveau, etc. Il s'est enivré et il s'est couché tout nu. Et le Cham, un de ses fils, est rentré dans la tente et il a vu son père nu. Il a vu la nudité de son père. C'était pas un crime, c'était quand même. Il est allé dehors, et il a rigolé, et il est allé le dire à ses frères. Ses frères et deux autres frères ont fait marche arrière, à reculons, ont pris un manteau, et ils ont couvert la nudité du père. Ils n'ont pas regardé. Un choix, une action, une humilité devant l'honneur qui était dû au père. Mais quand le père s'est réveillé, quand il a su, maudit soit Canaan, c'est toute la lignée de Cham qui a pris un coup. Et la malédiction paternelle, c'était la malédiction du sacrificateur dans le foyer. Mais ce que j'aimerais dire, quand vous prenez compte, quelle a été la faute de Cham? Il y avait une vérité, le père s'était enivré, il était nu, il s'était découvert, c'était pas honorifique, c'était d'accord. Mais quel a été le problème de Cham? Le père avait fauté, probablement, en s'enivrant. Mais quel a été le problème de Cham? C'est qu'il est allé raconter une vérité sur un autre, et sur son père en particulier. Ça l'a fusillé. Dévoilé. La Bible parle de l'amour qui couvre les fautes. Mais il n'y a pas seulement l'amour, l'humilité, mais les choses saintes. Regardez Paul. Paul est... au Sanhédrin, il a arrêté, on lui tape dessus, et enfin, il arrive dans le Sanhédrin. Et puis le souverain sacrificateur, qui ne devait probablement pas avoir son habit de souverain sacrificateur, au moment où Paul dit « je suis jugé pour le truc », le souverain sacrificateur ordonne qu'on lui donne une claque. Et Paul, vous savez, il pense qu'il avait vraiment du tempérament, hein, vous voyez, c'était pas le chiffre molle. Paul, il dit « muraille blanchie », ça veut dire que l'autre était... Vous voyez la réaction du vieil homme, il est là encore. « Muraille blanchie, Dieu te frappera !» Bing ! Ça vous est jamais arrivé d'avoir envie de dire ça. Vous l'avez peut-être dit. Et il y a un des serviteurs qui lui dit « Attention, tu parles au souverain sacrificateur. » Alors là, le décor change. Paul pétrit dans la loi de Dieu. Paul rempli de l'esprit comprend. Tout de suite. qu'il a fait une faute. Il s'excuse, je ne le savais pas, car il est écrit, tu ne parleras pas mal du chef de ton peuple. Mes amis, si vous réfléchissez au nombre de paroles qui sont prononcées sur les responsables, sur les ministères, sur les serviteurs de Dieu, sur les pasteurs, vrai ou faux, vous devez vous rendre compte que le peuple de Dieu, souvent, et bien des gens, et bien des églises, sont sous un jugement. Vous savez, à un moment donné, j'en ai bavé, je disais, mais pourquoi ces choses arrivent? Alors que vous savez, quand on est là, on se culpabilise, on cherche un truc, on met sa vie en ordre, mais je ne prétends pas être parfait. Mais je veux dire, donc, toutes sortes de choses qui viennent en lumière quand vous passez par la tribulation. Il y a une chose que j'ai compris, que j'ai réalisé, que j'ai littéralement senti, c'est que dans le ministère, vous n'avez pas que des gens pour vous, vous avez aussi des gens contre vous. Vous avez des gens qui parlent, vous avez des gens qui s'opposent, vous avez des gens qui ne sont pas d'accord, vous avez... Et ça, je ne parle pas seulement des chrétiens, je parle parfois dans le cadre des ministères pastoraux. Et les gens ne se rendent pas compte que par nos bouches, vous savez, Dieu nous a rendus, nous a fait à son image. Vous savez que Dieu crée, Dieu a la foi, une foi créatrice, ce qu'il croit, et tout ce qu'il croit, il le peut le faire. Donc, mais il le crée par la parole. Et Dieu nous a rendus semblables à lui. Nous sommes à l'image de Dieu. Donc nous sommes créateurs par nos paroles. Si nous croyons quelque chose de cœur et que nous le proclamons, que nous confessons, nous le créons. Est-ce que vous pouvez imaginer le nombre de mal que nous créons par nos paroles inconsidérées? C'est dingue. Ça explique pourquoi en France, parce qu'il n'y a pas le respect du ministère, il n'y a pas le respect de l'autorité. La francophonie est un esprit de rébellion, de contestation, d'insoumission, révolutionnaire. On est fiers d'avoir décapité le roi. Ça se paye. Hier, il y avait une sœur, il y avait du monde à la maison, et elle avait un couple missionnaire de l'étranger. Et la sœur disait, c'était Louis, c'est sa femme du Mexique, mais elle disait, elle était au Maroc. Mais elle dit au Maroc, quand elle était missionnaire au Maroc, elle avait des multiplications de pain, multiplications de thé. Elle disait, mais Dieu était là, sans problème. Elle dit, quand elle est arrivée en France, elle a dit, mais c'est pas vrai, qu'est-ce que je fais ici? Dieu n'est pas là. Il n'y a pas l'Esprit de Dieu. Elle allait partir, elle a dit avec son mari, elle a dit, mais on est dans un monde chrétien où il n'y a pas Dieu dans sa puissance. Elle raconte que Dieu lui avait parlé en disant, non, il faut percevoir, il y a quelque chose à percer, il y a quelque chose à casser. Mais il faut savoir que sur notre pays ou sur vous, il y a un esprit, il y a une principauté, il y a une domination, il y a une coalition que nous entretenons. Et alors vous avez, et je reviens à Cham, parce qu'il a découvert la nudité, il a raconté à d'autres, il a payé. Alors je vous donne un conseil, faites attention à ce que vous racontez à droite, à gauche, tôt ou tard, vous payez. C'est clair, moi j'ai vu des gens... Tarder, ensuite c'est le divorce, ensuite c'est la décapitude, ensuite. N'oubliez jamais, il faut que ça rentre dans nos têtes, que Dieu, avec sa parole, il en est le garant. Quand Dieu dit quelque chose, s'il ne le fait pas, s'il ne le respecte pas, il n'est plus crédible. Et Dieu est le garant de la vérité dans l'univers tout entier. C'est pour cette raison que jamais Dieu ne cédera. Sauf s'il trouve un intercesseur, sauf s'il trouve une repentance, sauf s'il trouve une confession d'humiliation. Sinon, la parole, c'est la parole. C'est extrêmement important que nous redécrivions ce trait de caractère qui est important. Je voudrais dire ceci encore. Vous savez que le symbole du Saint-Esprit, ce n'est pas d'abord le lion. Bon, le lion, c'est le Seigneur Jésus, lion tribu de Juda, mais le symbole du Saint-Esprit, c'est la colombe. La colombe, avec l'équilibre, on parle des sept plumes, des deux ailes, vous savez, l'équilibre, entre, on ne peut pas faire un dessin, entre le fruit et les dons. Mais ce qui est important, c'est de revenir à cette pensée profonde que dans les choses de Dieu, n'oubliez jamais ça, dans les choses de Dieu, ça ne se prend pas, ça se reçoit, ça se prend par la main de la foi, mais les choses de Dieu se reçoivent par la foi. Le ministère ne se prend pas, il se reçoit, Mais le recevoir ne doit pas être compris dans un sens passif. Je reçois dans le fauteuil, dans le hamac, j'attends que ça vienne. Non, ça se reçoit en obéissant, en s'humiliant, dans la transformation du caractère par lequel Dieu nous fait passer. Vous savez, l'autre jour, il y a un pasteur qui me dit, mais tu sais, aujourd'hui, les gens sont d'une fragilité incroyable. Incroyable. Vous rappelez les paraboles du terrain, la parole semée, et vous avez les deux critères de choix, des trucs, l'abondance de la vie, ou le deuxième test, la tribulation. Comme je le disais l'autre dimanche, entre deux tests, vous avez deux tests, vous serez testé sur les derniers. Vous passez par la réussite, vous serez testé. Qu'est-ce que vous allez faire de votre réussite, de votre prospérité? Vous passez par la difficulté, vous êtes testé. Qu'est-ce que vous allez faire dans votre difficulté? Et j'aimerais dire que, j'ai perdu ma pensée, mais j'aimerais dire que j'ai oublié ce que je voulais dire, mais il y a cette passivité que les chrétiens ont d'attendre que Dieu fait. C'est pas juste. Tu passes ta vie, les circonstances de ta vie, à accepter de reconnaître Dieu comme souverain, tu t'humilies, tu descends, tu restes pas passif, tu participes à cela, et Dieu le fait. C'est en choisissant de mourir, votre nature intérieure, votre âme, votre personnalité intérieure doit accepter de mourir pour que la vie du Christ sorte de là. Il y a à la fois une attente à Dieu, une apparente passivité, mais qui à l'intérieur est très active par notre apprentissage à l'obéissance, la soumission et la foi et la confiance en Dieu. Alors, l'humilité, la Bible dit que la sagesse est avec les humbles. Hein, vous connaissez Proverbe 11. La sagesse est avec les humbles. Oui, voilà ce qui revient à ma pensée. Je suis parfois étonné de voir les gens prendre des engagements. Je donne ma vie. On les voit. Réunion de formation, on les voit. À la réunion de prière, on les voit. À l'évangélisation, on les voit. Un certain temps, et puis c'est fini. Pas de persistance. Et Jésus dira pareil en parlant de la semence, voilà, qui est jetée dans les terrains. Il manque de persistance. Et quand survient une tribulation ou l'amour des richesses, voyez les deux pôles, il n'y a plus rien. Je peux vous poser une question? Vous êtes tenace ou connaissez le jeu du yo-yo? On peut compter sur vous quand vous avez la forme, mais quand vous n'avez plus la forme, vous êtes où? Malheureusement, nous vivons une génération. Aujourd'hui ça va, demain je ne suis pas bien. Je vais vous dire une petite confidence. Ça nous arrive à tous de ne pas être bien. Ça nous arrive à tous d'avoir des défauts. Ça nous arrive à tous de rater le coche, de ne pas encore arriver. Ça arrive à tous parfois, comme Pierre. Hein. Regardez Pierre, le fameux Pierre, il a blasphémé. Je parlais tout à l'heure. Mais rendez compte que Pierre a blasphémé. C'est comme si je me tenais là et je disais, mais Jésus ne connaît pas, c'est un pauvre type, et patata, il a blasphémé. Il n'a pas seulement dit qu'il ne le connaît pas, il a blasphémé. Dans nos critères évangéliques, c'était la croix, son ministère était fichu. Et Jésus l'a ramené. Paix mes brebis. Ce n'est pas de la condamnation, c'est la transformation que Jésus veut faire dans votre vie, dans la mienne, dans laquelle il faut avoir foi et confiance. Et ça prend du temps. Ça prend du temps de prendre du temps devant Dieu. Et avec Dieu, et d'arriver à l'accomplissement du plan que Dieu a pour notre vie. Ça prend du temps. Et si tu es trop pressé, tu te casseras la figure. On peut le dire, les gens pensent toujours faire mieux. Non, c'est l'expérience de la vie, c'est l'expérience des aînés, c'est l'expérience du travail, c'est la méthode de travail. Ça prend du temps parce que Dieu nous prépare non seulement pour les choses ici-bas, mais Dieu nous prépare pour notre place dans l'éternité. La priorité de Dieu, c'est l'éternité. Alors, mes amis, donc, je voudrais dire ça encore. La sagesse est avec les humbles, l'humilité précède la gloire. Et c'est là que vous pouvez voir un peu Joseph, voyez, vendu en Égypte, Marie qui accepte l'opprobre, Ruth la Moabite, Anne la mère de Samuel, Jonathan l'ami de David qui lâche son trône par amour pour David. David selon le cœur de Dieu. Est-ce que vous vous rendez compte qu'un homme comme David, je ne sais pas si vous réalisez que les normes de Dieu ne sont pas les nôtres. Est-ce que vous réalisez que ce bonhomme-là, ce garçon-là, devenu de l'année, a commis adultère pendant que les autres se bagarraient. Il a commis adultère. Il a fait tuer le mari de Bathsheba. Et pour compléter le tableau, un enfant naît là-dedans. Et Nathan vient le trouver, tu sais, un riche, il avait beaucoup de brebis, et le pauvre, il n'en avait qu'une. Le riche lui prend sa brebis, David, comme nous. C'est pas juste que cet homme mérite la mort. Et Nathan lui dit, t'es cet homme-là, tu es cet homme-là. Il risquait sa tête, le Nathan, parce qu'il allait dévoiler tout un secret. Vous savez ce qui a sauvé David, justement? C'est cette capacité de s'humilier devant la vérité, devant ses propres fautes, même lorsque sa réputation a pris un coup. Puisque dans toute la Bible et dans tout Israël, on savait que David avait trompé Uri, fait tuer Uri, pris sa femme. Dieu le sanctionne, l'épée ne quittera plus sa famille, mais il termine rassasié de jour dans la royauté. Et c'est cet homme-là que la Bible appelle l'homme selon le cœur de Dieu. Est-ce que vous vous rendez compte? Mais vous faites ça ici, mais c'est fini, je ferai un truc comme ça, mon ministère est fichu, je serai l'opprobre, c'est un gars, c'est tout ce que vous voulez. Un jour, je discutais avec un pasteur d'une dénomination bien pensante, je disais, mais nous croyons à la restauration des ministères. Et il dit, jamais. Le gars qui est tombé, il peut être ancien dans son église, mais jamais. Ah, je dis alors pour David. Ah, ben, il dit, David, c'était un roi, c'était pas un ministère. Mais non, Dieu l'a restauré, il y a des conséquences qu'il y a des... Mais quelle était la force? Quelle était la force spirituelle qui avait du poids devant Dieu? Quel était le poids, le point où David avait du poids devant Dieu? Son humilité. J'ai péché contre toi, ça. Seigneur, transforme-moi. L'hysope. Ah, Seigneur, mon cœur. Hein. Vous savez, des psaumes d'humiliation de David. Et quand vous pensez que ce bonhomme-là était un des meilleurs guerriers d'Israël, qu'il avait tué Goliath, c'est un homme d'une trempe incroyable. Ce n'était pas une femmelette. Mais quand vous lisez ces psaumes, vous avez l'impression que c'est une femme. Tellement il était sensible à la vie de l'esprit. Homme selon le cœur de Dieu, l'humilité. Je vais vous dire où c'est le plus difficile d'être humble. C'est quand on est en tort et que les autres vous le disent ou le voient ou qu'on ne voulait pas qu'ils le voient. Mais l'amour de la vérité fait le triage. Vous l'avez, vous la refusez. Il y en a qui évacuent, qui se bouchent les oreilles, ferment les yeux, s'endurcissent. On ne cherche pas à se sonder ou se laisser sonder. On sauve la face, mais on perd son âme. N'essayez jamais de sauver votre face devant Dieu ou devant les autres quand des choses sont vraies. Mais au contraire, humiliez-vous sous la puissante main de Dieu qui peut utiliser votre pire ennemi, qui peut utiliser votre environnement, les circonstances. Mais humiliez-vous. C'est par l'humiliation de vos propres faiblesses devant Dieu que vous êtes transformé, que vous êtes libéré. Car l'humilité précède la gloire. Et au temps convenable, Dieu vous élèvera. Ce n'est pas vous qui vous élèverez, c'est Dieu qui vous élèvera. Mes amis, c'est vous savez, dans l'évangile de Matthieu, les disciples, bien sûr, c'est le problème, même dans l'œuvre de Dieu, qui c'est le plus grand? Quel ministère? Les gens comparent les ministères. Je disais une fois, les chrétiens, surtout dans nos pays francophones, le pasteur, c'est un peu le curé, le ministère, c'est le curé. Nous sommes tous un royaume de sacrificateurs. Il y a des ministères, il y a des dons, mais nous ne devons pas placer notre idole dans un homme. Nous devons respecter, honorer, encourager, laisser conduire, ça c'est clair. Mais notre vie est basée sur le Seigneur, car nous sommes tous des ouvriers de Dieu. Or, dans le tissu humain, dans le cœur humain, on a toujours besoin de quelque chose, de quelqu'un sur qui reposer notre... Eh bien, et puis alors, dans le corps de Dieu, vous avez la manipulation inconsciente. Je fasse des prophéties pour qu'on me respecte. Ah, moi, j'ai tel don, moi, j'ai truc. Moi, je me mets en avant sans même me rendre compte. Je fais ça pour la gloire de Dieu. Parce qu'on a besoin Et puis, il y a, c'est vrai, oui, même le ministère, moi j'ai un appel au ministère, et puis on fait tout possible pour réussir ce ministère sans se rendre compte que c'est le chemin inverse qu'il faut prendre. Parce que j'aime dire, les disciples avaient ce problème-là. Jésus, il a les 12 avec lui, et puis à un moment donné, ils lui disent, mais ils discutent entre eux, parce que, vous savez, la rivalité, ça n'existe pas seulement chez les paroissiens, ça existe aussi chez les serviteurs de Dieu. Vous avez remarqué, dans la nature humaine, vous avez remarqué que c'est fou ce qu'on aime entendre, les défauts de quelqu'un. Ça rentre facilement, comme une friandise. Mais dites du bien à quelqu'un, de quelqu'un d'autre, surtout quand c'est proche, ça va. Si la personne a 100 ans, elle n'est pas dangereuse. Mais si quelqu'un dit même âge, l'esprit de rivalité, jalousie vient. Alors les disciples, ils avaient ce problème-là aussi, c'était pas comme nous. Et Jésus sait qu'ils discutent en route, alors il les fait venir et dit, bon, vous avez discuté de quoi en cours de route? Ils baissent tous la tête. Parce qu'ils, par l'expérience, ils savaient déjà que Jésus savait, puisqu'il leur pose la question, c'est qu'il le savait. Mais Jésus posait des questions pour les obliger à eux à prendre position. Bah oui, bon, bah il leur prend un petit enfant, et il dit, voilà, le plus grand, si vous ne devenez comme un petit enfant, n'entrerez pas. Il n'a pas dit, vous raterez votre vocation, il n'a pas dit ça. Vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Quand vous prenez l'état lamentable, orgueilleuse de la nature du peuple de Dieu, vous pouvez vous dire, moi personnellement je suis convaincu qu'il y a beaucoup qui resteront sur le carreau s'ils ne veulent pas changer. Et moi le premier, crains, dit Paul. Si Dieu n'a pas hésité à retrancher l'olivier, fort, alors crains, fais gaffe, attention, joue pas, c'est important. C'est pour cette raison que seuls vous et moi, vous ne pourrez vous en sortir, nous ne pourrons nous en sortir, que si nous acceptons de nous consacrer totalement au Seigneur. Vous ne pouvez pas avoir un pied dans le monde et un pied avec le Seigneur. Vous ne tiendrez pas, je ne tiendrai pas. Ou c'est tout, ou c'est rien. C'est pas une obligation légaliste, c'est les clés de la vie. C'est les clés de la vie. Vous ne pouvez pas espérer vous en sortir si vous refusez. Je ne dis pas le péché involontaire, je ne dis pas les faiblesses involontaires, je ne dis pas encore le manque de maturité dans lequel nous sommes encore. Je parle d'un refus volontaire de dire non à Dieu. Vous connaissez l'invitation à la noce? Ah ben l'autre, il vient de se marier, l'autre, il faut qu'il essaye ses bœufs, l'autre, il faut qu'il truc, etc. Toutes sortes d'excuses. Mais nous devons savoir que vos excuses ni les miennes ne tiendront devant la parole de Dieu. Jésus a dit, c'est pas moi qui vous juge, c'est la parole. Et la parole, tu ne pourras pas, excuse-moi, tu ne pourras pas l'éviter. Tu peux l'éviter en fuyant, tu peux l'éviter en te trompant, mais cette parole te trouvera au tribunal. Tu ne peux pas l'éviter. On a besoin, autant qu'on le peut, d'être honnête avec nous-mêmes, avec la parole. Alors, si vous voulez, je n'insiste pas, on a passé le temps, mais l'apôtre Paul parle, Jésus dira « Je suis doux et humble de cœur », Paul parlera « Humble d'apparence au milieu de vous ». Je suis parfois étonné de voir que certains serviteurs de Dieu, je prends tout Seigneur tout honneur, il y en a qui viennent, moi j'ai un ministère d'apôtre. Qu'on ait ni d'Ève ni d'Adam, ministère d'apôtre. Quand vous regardez le repas de les noces, repas, Jésus qui dit quand tu es invité, là au fond, moi je suis serviteur de Dieu. À une convention, plusieurs milliers de personnes, j'ai une fois assisté à une course, non pas des chrétiens pour toucher l'onction du prédicateur, mais des serviteurs de Dieu, qui même avant avaient critiqué le prédicateur, mais quand il a dit je vais prier pour le ministère, vous auriez vu, il y en a qui ont pris des coups de coude dans le ventre parce qu'on voulait passer. Paul dira, j'aurais pu me produire au milieu de vous, comme l'apôtre, parce que Paul pense franchement, il en a mis, il fait des églises. Humble d'apparence au milieu de vous. Et vous savez pourquoi l'humilité de quelqu'un est dangereuse, extrêmement dangereuse pour les autres? Parce que si vous êtes humble, les autres vont révéler ce qu'ils sont. Ou ils vous piétinent, ou au contraire, vous êtes contagieux pour eux et ils suivent votre trace. Mais l'humilité de quelqu'un révèle la situation du cœur de l'autre. Parce que Paul ne voulait pas une adhésion légaliste obligatoire. Il voulait que leur soumission soit une soumission de cœur à son ministère. et pas une soumission de règlements, de priorités, d'étiquettes et de galons. Comme Jésus. Jamais. Moi, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Mes amis, quelques petites réflexions qui doivent, je termine en disant, c'est un choix. C'est un choix que vous et moi nous sommes appelés à faire. Mais c'est un choix qui va te suivre toute ta vie, tu seras obligé de faire périodiquement et qui va conditionner ton éternité. Revêtez-vous d'humilité et n'oubliez jamais qu'autour de vous, que ce soit dans le peuple de Dieu, ne parle pas du monde, le monde est arrogant par nature, mais au milieu du peuple de Dieu, vous aurez des hommes, vous aurez des femmes, vous aurez des jeunes gens, vous aurez des jeunes filles, pleins de réussite, pleins de talent, plein de capacités. Et à un moment donné, 5, 6, 10 ans après, vous ne les voyez plus. Pourquoi ? Je ne sais pas si je l'ai dit à la réunion de louange l'autre soir, ou si je vous l'ai dit ici. Pourquoi ? C'est simple. Un jour, c'était, je crois, Simpson qui a dit, en parlant d'un jeune ministère, plein d'avenir, plein de capacités, il a dit, il a un seul problème, ce gars-là, qui était en pleine réussite. Et les autres l'ont dit, quel problème ? Il ne boite pas. Il ne boite pas. Trop sûr de lui. Jacob, il a eu la hanche démise, ça l'a changé. Il est devenu Israël. Alors mon frère, ma sœur, accepte d'apprendre à boiter devant Dieu. Alors il t'élèvera au temps convenable. Que Dieu vous bénisse, vous encourage. Mais n'oubliez pas, ne regardez pas aux autres, parce que les autres, ce n'est pas la vraie référence. Notre référence, c'est le Seigneur lui-même. Doux, a-t-il dit, et humble de cœur. Amen.
Enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.